L'ismaïlisme est une branche de schisme en islam. Et quand on pense sur la contribution d'ismaïlisme sur la pensée islamique, on peut peut-être souligner quatre domaines. La première, c'est l'interaction entre la foi et l'intellect. C'est-à-dire, il n'y a pas de conflit sur l'intelligence humaine et la révélation dans la pensée ismaïlienne et de l'interprétation de l'ismaïlisme de Coran.
Par liaison téléphonique avec Boston, le professeur Azim Nanji.
Deuxième, c'est la question de l'engagement en ismaïlisme avec la totalité de la vie. C'est-à-dire, il n'y a pas une dualité entre les dimensions de vie séculaire ou religieuse ou entre la vie matérielle ou la vie spirituelle. Aussi, vous avez une éthique qui demande un engagement avec tous les aspects de la vie, c'est-à-dire la sociale ou bien l'économique. Troisième, vous avez une dimension qui demande un balance sur la vie personnelle et la vie publique, c'est-à-dire vous avez une dimension comme la prière publique, c'est-à-dire vous avez une quête qui est personnelle et vous pouvez balancer comme ça tous les aspects de l'islam, la dimension publique et la dimension personnelle. Et quatrième, vous avez une affirmation de pluralisme dans l'islam. Vous avez les plusieurs communautés d'interprétation, vous avez une multiplicité de significations quand on pense sur le Coran, quand on pense sur la vie de la prophète. Et toutefois, vous avez le rôle de imam qui est central dans la théologie du schisme et de l'ismaïlisme.
S'agissant du Coran, l'ismaïlisme se distingue de l'ensemble de l'islam par son interprétation très particulière. Azim Nanji.
Le Coran est pour tous les musulmans la fondation et la base de la vie islamique. Dans la théologie ismaïlienne, vous avez un concept qui vue le Coran dans plusieurs niveaux. C'est-à-dire, le Coran est un texte complexe, est un texte qui permet une multiplicité de significations. Vous avez deux dimensions, une dimension qui s'appelle Zahir en arabe, c'est-à-dire la dimension exotérique, la dimension de l'extérieur. Et vous avez la signification du batin, la signification antérieure. Vous n'avez pas un vue dogmatique, c'est-à-dire la scripture, on n'a pas interprété la scripture dans le sens littéral, mais dans le sens multiple, vous donnez une combination d'interprétations qui intégrait la notion intellectuelle, spirituelle et aussi bien la matérielle. Et toujours ça, le sens, une balance et équilibre, c'est important dans l'interprétation ismaïlienne du Coran.
Cette première émission est intitulée « L'ismaïlisme dans la pensée islamique » et le professeur Nanji, que nous venons d'entendre, a esquissé une présentation de l'ismaïlisme en insistant tout particulièrement sur le rôle du Coran, sans toutefois le définir. Donc, il apparaît d'emblée, d'un point de vue d'historien des religions, autant que d'un point de vue ismaïlien, le professeur Nanji étant les deux, il apparaît que tout tourne autour du Coran. Nous sommes bien dans l'islam, Mohamed Harkoun.
Oui, nous sommes bien dans l'islam, c'est évident, mais il y a là, dans cette manière d'insister sur le fait que les ismaéliens sont bien musulmans et appartiennent à l'ensemble du développement lié à l'islam, il faut tout de même insister aussi sur le fait que ce que nous appelons le mouvement ismaïlien, et c'est un mouvement politique, mais c'est aussi un mouvement intellectuel, un mouvement doctrinal, un mouvement des idées, il faut insister sur le fait que ce qui le caractérise, c'est la créativité, l'inventivité, une sorte de spontanéité, de groupe ethnoculturel extrêmement divers. Plus je regarde ce que nous appelons encore une fois l'ismaélisme, vous voyez, je suis même gêné d'utiliser ce terme, tant il est difficile d'inclure dans ce terme ismaélisme la diversité des mouvements qui sont apparus et qu'il faudrait considérer comme tels, et pas nécessairement leur coller cette étiquette. Parce qu'il y a de nombreuses ruptures au cours de 2 à 3 siècles de développement, et ces ruptures ne sont pas suffisamment considérées dans leurs origines ethnoculturelles, dans leurs origines anthropologiques. Donc je fais là une réserve, sans évidemment détacher ou vouloir détacher les Ismaéliens de l'ensemble du champ islamique, pas du tout, parce que je sais que les Ismaéliens d'aujourd'hui souffrent beaucoup de cette sorte de rejet dont ils ont été l'objet du fait de l'islam officiel, de l'islam orthodoxe vis-à-vis d'eux, qui ont été considérés toujours comme une secte extérieure. Ils en souffrent. Mais ce que je dis n'affecte en rien leur appartenance à l'ensemble islamique.
Il faut quand même faire un tout petit peu d'histoire pour s'approcher de l'ismaélisme, Mohamed Harkoun. Indispensable.
Bien sûr, l'histoire, c'est que il y a le fait islamique, je l'appelle ainsi, c'est-à-dire le fait de la révélation, de ce que les musulmans appellent la révélation dans le Coran, et il y a le déploiement de ce fait islamique, déploiement politique de cet islam après la disparition du prophète, mais surtout après l'installation de la dynastie Omeyyade en 661 à Damas, puisque c'est le point de départ de ce qui devient, à partir des Omeyyades, l'empire islamique.
Vous avez parlé de chiisme, il faut quand même rapidement évoquer l'émergence du chiisme, Mohamed Harkoun.
L'émergence du chiisme est liée aux luttes de succession après la mort du prophète. Alors, selon la présentation traditionnelle musulmane, les chiites seraient apparus, ou le mouvement chiite serait apparu, lors du conflit entre le quatrième imam Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète et gendre du prophète, et Muawiya, le fondateur de la dynastie Omeyyade. Ceci se passe donc entre 656 et 661. Ce sont des années extrêmement effervescentes de lutte pour une succession extrêmement disputée et qui met en face à face deux forces sociales et politiques, une force liée à la famille du prophète, les Banu Hashim, et une force liée à un clan adverse à l'intérieur de la tribu de Quraysh, et qui est le clan des Banu Sufyan, auquel appartient Muawiya, le premier fondateur de la dynastie Omeyyade. Et donc c'est une longue histoire qui traverse pratiquement toute l'histoire politique et doctrinale, et parce que c'est inséparable de l'islam, depuis donc, disons, 632, la mort du prophète, jusqu'en 1258, qui est l'abolition, la disparition du califat, avec l'invasion mongole à Bagdad. Donc, il y a eu une histoire tout à fait politique, tout à fait continue, à l'intérieur de laquelle s'inscrit ce grand schisme qui est latent et qui se renouvelle sous forme de division à l'intérieur du chiisme et à l'intérieur du sunnisme.
Un point important, c'est le rôle de Ali d'un point de vue chiite. C'est le fondateur, en quelque sorte, entre guillemets, du chiisme. Il est très près du prophète Mohammed, parfois même le supplante dans la piété populaire. Enfin, Ali est le premier imam.
Oui. Je ne dirais pas, justement, qu'il est le fondateur du chiisme, historiquement parlant, car j'ai commencé tout à l'heure par vous dire, selon la présentation traditionnelle, celle que font les sunnites d'un côté et les chiites de l'autre, qui sont deux versions complètement opposées et différentes de cette histoire. Et en ce qui concerne la notion même de chiisme, chiisme en arabe veut dire partisan. Partisan d'une idée, partisan d'une cause, et avant de devenir un mouvement à la fois politique très fort et doctrinal très inventif et très riche, ce que nous appelons le chiisme a cheminé d'abord plus ou moins souterrainement, dans des climats toujours effervescents, et une inventivité aussi du côté des idées, que je ne veux pas enfermer, dans une orthodoxie fabriquée après coup et tardivement. Car le sunnisme aussi est de fabrication tardive. Et il y a eu des projections vers l'arrière pour lui donner une légitimité qui commencerait dès le temps du prophète et dès le temps de ce qu'on appelait justement les califes bien guidés, les califes orthodoxes. Cette appellation elle-même est une appellation construite rétrospectivement pour des questions de légitimité, parce que les luttes pour la légitimité ont persisté tout le temps. Pendant la période califale, depuis surtout 661 jusqu'à 1258, et c'est une querelle qui est rejaillie constamment dans toutes sortes de milieux.
Mohamed Harkoun, il faut bien quand même que nous revenions à ce qui fait l'originalité propre de l'ismaélisme, mais toujours perçu dans une filiation islamique. Donc, élément constitutif de l'islam, le prophète Mohamed. Mais, s'agissant du chiisme et tout particulièrement de l'ismaïlisme, à côté du prophète, il y a l'imam. Alors, quel est le rôle du prophète et quel est celui de l'imam, Mohamed Harkoun?
Oui, ce sont des rôles très, très précis et que l'on ne peut pas confondre. Le prophète s'inscrit dans la grande lignée des prophètes de la Bible. Et l'imam est en charge du dépôt spirituel qui est fait dans la révélation, c'est-à-dire la révélation telle qu'elle est consignée dans le Coran.
Donc l'imam est le complément nécessaire du prophète.
L'imam est le complément nécessaire, pas le continuateur, parce que la mission est différente, n'est-ce pas?
Donc le prophète est l'homme de la parole, l'imam est l'homme du sens.
Je ne dirais pas cela ainsi, parce que le prophète en islam, c'est l'homme de la transmission de la parole de Dieu. D'ailleurs, on distingue très bien la parole de prophète qui est consignée, elle, dans un corpus à part, qui est le hadith, et la parole de Dieu qui, elle, est consignée dans le Coran.
Et l'imam, donc homme du sens.
L'imam, il est, on peut dire, homme du sens, homme de l'herméneutique. Et d'une herméneutique qui va être fondée sur son charisme personnel, mais aussi un charisme qu'il tient d'une sorte de transmission.
Charisme héréditaire.
Oui, un charisme héréditaire, une sorte de transmission à l'intérieur de la famille du prophète. Donc la famille du prophète, dans son ensemble, se trouve promue à une fonction spirituelle, à laquelle, évidemment, elle n'avait pas été nécessairement destinée au départ. Ça, c'est cela le développement doctrinal et c'est cela la transfiguration.
Pour en revenir à l'imam, qui est quand même le pivot de la doctrine ismaélienne, oui. Faisons un peu d'imamologie, si je puis dire, Mohamed Harkoun. D'abord, Ali, ses fils, petit-fils du prophète Mohamed, Hassan et Hussein. La figure de Fatima aussi est également importante, comme mère qui transmet cette dimension suprahumaine.
Oui. Alors, lorsque nous suivons le développement historique des figures des imams, d'abord jusqu'au VIe, c'est commun.
Commun à tout le chiisme.
Tout le chiisme, oui. Jusqu'à Ja'far Sadir. Ensuite, après Ja'far Sadir, il va y avoir cette division qui va donner historiquement une grande branche, qui est la branche imamienne, et qui va aller jusqu'au 12e imam, et la branche ismaélienne, qui s'arrête au 7e imam. Donc, c'est une division à la fois, encore une fois, politique et doctrinale. Et la notion d'imam aura des points communs entre les imamiens du haut des Simains et les imamiens ismaéliens. Car dans les deux cas, il va y avoir un rapport au Coran et un rapport à la tradition. Alors, la tradition liée à Ali va prendre de plus en plus d'importance du côté des chiites, aussi bien imamiens qu'ismaéliens, tandis que chez les musulmans qui restent, enfin, qui se définissent comme sunnites, la tradition liée à Ali est beaucoup moins exubérante, beaucoup moins importante, et c'est cela qui va faire la différence.
Le Coran, fondement de la foi ismaïlienne, avec toutefois de savantes interprétations, car le texte fondateur est ici considéré comme complexe et riche en significations multiples. La référence à une tradition liée à Ali, cousin et gendre du prophète Mohammed, rappelle que l'ismaïlisme est une branche du chiisme. Enfin, une cosmologie originale, que l'on peut considérer comme étant la base de l'ismaïlisme. Yves Marquet.
Effectivement, l'ismaïlisme est basé, dès l'origine, sur un système cosmologique et philosophique destiné, à justifier la clandestinité des imams. Il y a d'abord une création spirituelle, instantanée, hors du temps et de l'espace. De l'influx divin émane l'intellect universel, et de la même manière, l'âme universelle émane de l'intellect, et de l'âme émane la matière première. L'intellect comporte tous les archétypes de la future création matérielle, c'est-à-dire tous les êtres et événements de cette création matérielle. Quant à la création matérielle, elle est issue de la faute d'Adam. Il s'agit ici d'Adam céleste, naturellement, qu'on appelle aussi l'âme adamique ou la forme humaine. En réalité, cette âme adamique peut s'identifier à l'âme universelle elle-même, ou tout au moins à sa faculté la plus importante, mais irradiée par l'intellect.
Alors, la faute d'Adam, d'un point de vue de la théosophie ismaélienne, Yves Marquet.
Cette faute d'Adam est quelque chose d'anecdotique. Il a voulu connaître Dieu directement sans passer par l'intellect. Et sa punition fut une chute de l'âme adamique dans la matière, et c'est aux différents étages de la création. Et elle crée en même temps ce monde. Nous avons tout d'abord, elle descend dans les corps célestes, et jusque dans le bas-monde, dans ce qui sera plus tard le bas-monde. Et nous aurons une épreuve expiatoire, c'est-à-dire une interminable remontée durant laquelle se fera toute la création matérielle jusqu'à la fin du monde. Dans cette remontée, les corps célestes sont pour l'âme un instrument. Elle reproduira dans la matière toutes les formes qui sont dans l'intellect. Mais la grossièreté de la matière ne permettant pas de recevoir toutes les formes, sinon une à une ou successivement, cela entraîne la nécessité de cycles astraux. Et par évolution, par addition successive de formes, sont créés les êtres d'ici-bas. Et cela va du simple au complexe, c'est-à-dire des quatre éléments à l'homme.
Comme le démiurge voulait faire de la terre une demeure pour qu'y apparaissent les règnes naturels qu'il y fit se manifester, lesquels sont les minéraux, les végétaux et les animaux, et comme la terre ainsi que la région d'espace qui lui est contiguë présentait un degré extrême de froidure et de sécheresse, il mit le ciel en mouvement. Les étoiles projetèrent leurs rayons vers la terre. Or, celle-ci formait un roc très dur, à cause de son extrême froidure et sécheresse. Il fut impossible aux rayons projetés par les étoiles d'y trouver un point de pénétration à cause de sa dureté.
Ensuite, le démiurge confia à Saturne la régence de l'univers, en lui communiquant de sa sève divine pour qu'il imprime le mouvement à son ciel. Saturne régit le monde pendant un millénaire. Les natures mentionnées ci-dessus, les éléments, se mélangèrent les unes aux autres. Se produisirent les vapeurs, les brouillards et les pluies, se succédant en pure perte. La terre devint un océan agité par les vagues. Pendant ce millénaire, fermenta ce qui est homogène à la nature de Saturne, le fer, les pierres, tandis que la terre était submergée par l'eau.
Ensuite, Jupiter vint en aide à Saturne pour la régence de l'univers pendant un second millénaire. Il assécha par sa chaleur la plupart des humidités. Celle des choses qui, homogènes à sa propre nature, étaient de complexion bonne, il les sépara des choses mauvaises qui s'y étaient immiscées, et fermentèrent les ferments. qui était homogène à sa
Ensuite, Mars vint en aide à Saturne pour la régence de l'univers pendant un troisième millénaire. Tous deux, Mars et Saturne, sont les maléfiques du ciel. Mars assécha et absorba par sa chaleur la plupart de ses humidités. Il écrasa les montagnes qui s'étaient solidifiées pendant le millénaire de Saturne et les réduisit à du sable. Pendant sa période, apparurent les petits animaux méchants, comme le rat et le chat, aussi bien que les grands animaux féroces du même genre, les lions, les bêtes venimeuses, et fermentèrent les ferments des chefs,
Ensuite,
des armées.
Le soleil vint en aide à Saturne pour la régence de l'univers pendant un quatrième millénaire. Il dissipa les ténèbres et les brumes de la surface de la Terre. Il tempéra les pluies, leur imposant un certain degré de modération. Fermentèrent les ferments des souverains et des grands hommes.
Ensuite, Vénus vint en aide à Saturne pendant un cinquième millénaire. Alors fermentèrent les ferments des Arabes, des femmes, de ceux qui aiment le divertissement et la musique. Les sources d'eau douce jaillirent. Les pluies tempérées descendirent du ciel. Sous la régence de Vénus, apparurent les arbres fruitiers aux senteurs exquises. Apparurent les oiseaux qui se répandirent dans l'atmosphère. Les animaux utiles et aux belles proportions naquirent. Tout cela était un prélude à l'apparition de la personne humaine.
Ensuite, Mercure vint en aide à Saturne pour la régence de l'univers pendant un sixième millénaire. Alors les pluies furent de plus en plus tempérées, les natures élémentaires de mieux en mieux proportionnées. Pendant le millénaire de Mercure, se multiplièrent les plantes bien constituées et les animaux dont la consommation est licite. Ensuite, à la fin de sa régence et au début de celle de la Lune, se produisit l'apparition de l'individu humain, à la façon d'une plante croissant de la terre, ainsi que Dieu le dit. Dieu vous a fait croître de la terre à la façon d'une plante.
Ça, c'est un texte d'Abou Yaacoub Sijistani, et naturellement, il n'est pas tout à fait d'accord avec d'autres auteurs, parce que chaque auteur, en fait, diffère plus ou moins des autres auteurs.
Toutefois, tous ensemble convergent vers cette perception de cycles astro.
Absolument. Et c'est en effet cette évolution qui exige les cycles astro, n'est-ce pas ? Qui sont gouvernés par l'âme, en somme. Cette évolution part des quatre éléments jusqu'à l'homme, en passant naturellement par les minéraux, par les végétaux qui sont doués de la croissance, puis des végétaux sortent par un mélange les animaux, doués de mobilité et de sensibilité, et nous arrivons enfin à l'homme, qui a en plus de toutes ses facultés, la faculté parlante. Qu'on appelle souvent l'âme parlante ou logique. Et à partir de là, nous aurons besoin d'une autre évolution qui va s'ajouter à l'évolution physique des êtres, c'est une évolution spirituelle, une évolution psychique, mais qui sera extrêmement longue, elle aussi. Et de ce fait, la prophétie sera démultipliée. On ne pourra pas se contenter, par exemple, d'Adam céleste pour présider à la remontée, ou plus exactement, Adam céleste sera manifesté par différents prophètes envoyés, dont certains sont appelés législateurs, parce qu'ils apportent une nouvelle loi qui abroge la loi précédente et qui est mieux adaptée aux conditions nouvelles. Loi révélée, naturellement, à ce prophète.
Alors, Adam est donc le premier des prophètes.
Le premier millénaire, en effet, est inauguré par Adam, le deuxième par Noé, le troisième par Abraham, le quatrième par Moïse, le cinquième par Jésus et le sixième par Mahomet. Naturellement, tous sont des incarnations de l'âme adamique. Alors, nous avons donc des cycles qui sont d'ailleurs les mêmes qui préside à l'évolution physique, mais sur un espace de temps plus court. Et les principaux cycles, qu'on pourrait appeler cycles prophétiques, bien qu'en fait tous soient déterminés par la prophétie, ces cycles prophétiques sont de 7000 ans. Et ces 7000 ans se divisent en 6 millénaires, inaugurés chacun par un grand prophète envoyé, dont 6 donc, sont les législateurs, tandis que le 7e est le Qa'im de la résurrection, qui va dévoiler toutes les réalités au cours du 7e millénaire et présider au jugement des âmes, d'abord des âmes du cycle sur Terre et ensuite dans le monde psychique, dans le monde de l'âme. Et nous aurons donc, à l'intérieur de ces périodes de 1000 ans, nous aurons des petits cycles qui sont des cycles de l'imama. Entre Mahomet et le Qa'im, nous avons 8 heptades d'imams qui doivent être obligatoirement une lignée de descendants de Mahomet. Nous avons d'abord une double heptade de renaissance et d'apogée, durant laquelle règnent les imams, qui sera suivie d'une heptade de décadence et d'une heptade de clandestinité, durant laquelle règnent les anticalifes, alors que les imams, eux, sont obligés, au contraire, de se cacher, n'est-ce pas ? C'est donc le règne des anticalifes et des méchants. Le nombre des initiés est restreint et le secret doit être encore mieux gardé. Nous avons, par exemple, à la mort de Ali, une période de décadence qui commence. Elle va jusqu'au 7e imam, le fils d'Ismaïl, qui a donné son nom à la secte, et qui inaugure une période de clandestinité qui durera jusqu'à la manifestation du premier calife fatimide, Abdallah el-Mahdi.
Un élément spécifique à l'ismaélisme par rapport à l'ensemble de l'islam, c'est le rôle attendu du Qa'im et de la résurrection, Yves Marquet.
Effectivement, le dernier millénaire des cycles de 7000 ans est un millénaire, je l'ai dit, de résurrection. Le Qa'im va donc juger toutes les âmes du cycle et les sentences pourront être de 3 types. Il y a d'abord les âmes élues qui sont celles des initiés, les âmes bonnes mais insuffisamment instruites devront être réincarnées une fois au cours du cycle suivant ou si besoin est au cours de plusieurs cycles de 7000 ans jusqu'à ce qu'elles soient aptes à remonter dans les sphères célestes. Et enfin, les âmes irrémédiablement mauvaises seront damnées, c'est-à-dire qu'elles resteront sans corps dans le monde matériel jusqu'à la fin du monde. Or, la durée du monde, le savez-vous, et de 360 000 fois 360 000 ans aux yeux de nos auteurs.
Yves Marquet, cette cosmologie dans l'ismaélisme a-t-elle eu finalement une fonction ?
On peut penser que la cosmologie a dû être utilisée par les auteurs ismaéliens pour corroborer leur doctrine de la prophétie et de l'imama. Vraisemblablement dans la deuxième moitié du 9e siècle. Et le système cosmologique est à peu près le même que celui des philosophes de l'époque, mais la conception des cycles astraux et des cycles prophétiques est tout à fait propre à l'ismaélisme et ne se retrouve même pas dans le chiisme et encore moins naturellement dans le sunnisme.
Clé de voûte de l'ismaélisme, l'imam. On peut dire de l'imam qu'il hérite du charisme. Il s'agit d'un charisme héréditaire. Et ce charisme, c'est une dimension suprahumaine.
Effectivement, l'imam est considéré comme un personnage à la fois humain et divin. Son charisme est donc beaucoup plus important que celui d'un mystique soufi, par exemple. Et c'est lui qui est... Eux seuls peuvent guider la remontée des âmes et sont habilités à cela avec l'aide de toute la hiérarchie des missionnaires que lui-même entraîne. Ce n'est qu'au Xe siècle que nous constatons que cette doctrine de l'imama est fixée. Et encore est-elle différente chez différentes tendances de l'ismaélisme. Car dès l'origine, pas certains extrémistes ont donné la primauté à l'imam sur le grand prophète, alors que la branche principale de l'ismaélisme, à l'origine tout au moins, a laissé la préséance à Mahomet et aux grands prophètes envoyés en général.
Tu nous es apparu sous la forme de Jésus et plus tard sous celle de Mahomet.
Fin du 1er siècle du calendrier mohammedien, soit la fin du 8e siècle de l'ère chrétienne. L'espace islamique est un champ de contestations sociales plus ou moins violentes, de révoltes politiques qui tendent à remettre en cause un ordre perçu par certains comme injuste. C'est dans ce climat idéologique que s'inscrit l'ismaélisme naissant. Thierry Bianchi.
Nous avons des révoltes qui se fondent avant tout sur la remise en question de la personne choisie pour être calife. Faut-il qu'il soit un descendant de la fille du prophète, de Fatima et de son gendre Ali? Suffit-il qu'il soit membre de la famille hachimite, c'est-à-dire de la famille élargie du prophète? Faut-il qu'il soit simplement un membre de la tribu coraïchite, la tribu de la Mecque, ou tout musulman peut-il être calife? Nous avons là successivement la position des chiites, des abbassides, des sunnites, notamment des omeyyades, et des kharijites. Second point de ces révoltes, c'est le respect de la loi. Vous avez deux lectures possibles du Coran et du Hadith, des paroles du prophète non coraniques. Une lecture qui est une lecture au premier degré, qu'on appellerait la lecture claire, zahirit, et une lecture qui recherche un sens caché, batinit. Et dans ce domaine, évidemment, les obligations peuvent être beaucoup plus aménagées pour les fidèles si nous avons une lecture au niveau caché, au niveau du second sens. Et le troisième point des révoltes est la justice sociale. Le troisième domaine, c'est est-ce que l'islam a proclamé une égalité simplement de la créature devant son Seigneur ou une certaine égalité des créatures entre elles? Et là, nous avons une position assez générale du sunnisme qui pense que l'islam ne concerne que les rapports des rapports du créateur et de la créature, de la prière et les autres rapports, et que dans les domaines des obligations horizontales, les uns envers les autres, les musulmans envers les autres musulmans, simplement il suffit d'appliquer la loi et la justice économique ou la justice sociale est tout à fait secondaire. Au contraire, la position du chiisme est de remettre en question l'inégalité sociale ou l'injustice sociale.
Dans un tel contexte, c'est forcément la remise en cause du pouvoir central qui fleurit. Et donc, tout l'islam, les différentes sociétés qui composent l'islam, connaissent tour à tour des mouvements de révolte plus ou moins messianiques. Thierry Bianchi.
Alors, ces révoltes ont commencé dès le début de l'islam. Il faut rappeler que sur les 5 premiers califes, 4 sont morts assassinés. D'autre part, ces révoltes n'ont pas toujours eu le même aspect. Il y a eu un aspect des révoltes du 1er siècle qui était des révoltes conservatrices, de façon à conserver le pouvoir uniquement chez les Arabes, et au contraire remise en question par les islamisés, les mawalis islamisés, qui voulaient que l'islam soit égal pour tous, d'origine arabe ou pas. L'ismaélisme donc surgit dans ce contexte. Et les premières nouvelles, on sait que quelqu'un qui s'appelle Hamdan Karmat, on ne sait pas qui c'est, prêche la révolte en disant que il prêche au nom de l'imam caché des Ismaéliens, c'est-à-dire l'imam caché de ceux qui croient que, à la suite de Ali, 6 imams ont été légitimes et que ensuite, à partir du 7e imam, les imams existent mais ne sont connus que d'eux-mêmes et simplement, avant de mourir, ils désignent un jeune garçon qui leur succédera. Et donc, ces imams cachés sont toujours comme une menace pour rétablir la justice dans ce monde qui est devenu injuste. Il y a plusieurs classes qui vont participer aux révoltes ismaéliennes. Il y a aussi bien ces nomades, ces paysans très pauvres d'Irak, mais il y a, et c'est ça qui est le plus intéressant dans ce mouvement, les financiers les plus riches de Bagdad et plus tard aussi de Foustat, l'ancien Caire. Et cela voit dans l'ismaïlisme la possibilité de ne pas respecter la loi à la lettre et surtout la possibilité d'intégrer soit la philosophie grecque, soit toute la sagesse indienne et aussi la sagesse zoroastrienne à l'intérieur de l'héritage musulman. C'est donc des gens qui ont une approche scientifique tout à fait différente de l'approche très humble des autres. Mais il y a une troisième classe qui va jouer un rôle important, c'est la classe des grands commerçants voyageurs qui va répandre l'ismaïlisme de telle manière que sur une carte des points d'ismaïlisme, on va de l'Algérie actuelle jusque à l'Inde et des environs du Caucase jusqu'au sud du Yémen.
Mais ces commerçants, ces voyageurs qui diffusent les idées ismaïliennes, sont-ils déjà des missionnaires, dans le sens où ils seraient investis de la mission de diffuser les nouvelles idées, ou bien ne font-ils que propager leurs propres opinions sans un ordre, sans une organisation derrière eux?
Alors, le système de ces révoltes idéologiques est établi avant l'apparition de l'ismaïlisme, il a déjà fonctionné pour les abbassides. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui ne revendique pas pour lui-même, mais qui annonce la venue du prince de justice. Il y en a eu un pour annoncer les abbassides, et quand les abbassides ont été au pouvoir, ils l'ont supprimé. De même, il y en aura un pour annoncer l'arrivée des fatimides, et quand les fatimides seront au pouvoir, ils le supprimeront. Car ce personnage, ce missionnaire, est obligé de créer autour de lui tout un réseau de sous-missionnaires, où il y a toute une série de dai, dora, c'est le terme qu'on emploie en arabe, qui respectent une hiérarchie, qui se font passer soit pour des commerçants, soit pour des maîtres d'école, soit pour de pieux personnages, et qui testent les gens qu'ils rencontrent dans les caravansérails, etc. Et puis, qui peu à peu font passer l'idée et disent qu'ils parlent au nom d'un descendant, un shérif, un descendant du prophète, la fille du prophète Fatima et de Ali, et que ce prince de justice va surgir. Et ensuite, quand la police souvent se débarrasse de ces personnages, quand ils sont arrivés à avoir un réseau assez important, on fait apparaître le prince de justice.
Les missionnaires ismaéliens diffusent à travers tout l'espace islamique leur doctrine, et l'on assiste à une implantation particulièrement importante en Ifriqiya, Thierry Bianchi.
Quand l'ismaélisme commence à se répandre à la fin du 9e siècle, il se répand presque dans l'ensemble du monde musulman. Et chaque centre tend à devenir autonome. Une famille de descendants du prophète, de shérif, qui habitait à Salamiyya en Syrie, fuit et va s'installer en Ifriqiya, où elle arrive à faire disparaître les Arlabides qui étaient sur place et à proclamer le premier califat. C'est sous le nom de Mahdi, le messie attendu en quelque sorte, que ce premier califat fatimide est créé, et concurremment au califat abbasside de Bagdad.
Alors je précise que l'Ifriqiya, c'est grosso modo la Tunisie actuelle, et que Mahdiya, la ville du Mahdi, est une toute petite ville, très belle d'ailleurs, sur le bord de la côte.
Ils auront d'ailleurs plusieurs capitales successives. Et une fois qu'ils sont installés en Ifriqiya, ils ont une politique à court terme, où proximité, conquérir la Sicile, conquérir l'ensemble de l'Afrique du Nord, s'opposer au troisième califat qui apparaît à ce moment-là, au califat omeyyade de Cordoue, et ils ont une politique à long terme, c'est-à-dire aller conquérir l'Égypte et plus tard prendre la place du calife abbasside de Bagdad. Et ils n'arriveront en Égypte qu'en 869, ils ont fait trois tentatives qui ont avorté avant, et en 869, le général d'origine sicilienne Djouhar va créer la ville du Caire à côté de Foustat, et trois ans après, son maître, le calife de l'époque, qui s'appelle Al-Mu'izz, va s'installer, et cela va devenir, pendant deux siècles, cela va devenir le nouveau centre du monde arabe, et Bagdad sera l'ancien centre du monde arabe, et il y aura une concurrence extraordinaire entre ces deux centres.
Le Caire, nouveau phare de l'islam, siège du calife fatimide, La dynastie fatimide nous apparaît, avec le recul de l'histoire, comme le califat fatimide. La dynastie fatimide nous apparaît, avec le recul de l'histoire, comme globalement magnifique et grandiose. Thierry Bianchi.
Vous avez, pendant le premier siècle fatimide, une très grosse influence des soit des marchands ismaéliens, soit des marchands juifs, qui jouent un rôle dans le pouvoir, et dans le second siècle, une très grosse influence, cette fois-ci des militaires arméniens. Et la doctrine ismaélienne a cet avantage en Égypte d'être une doctrine qui associe le peuple d'Égypte, mais sans du tout le forcer à quitter le sunnisme. Alors, le peuple égyptien reste sunnite pendant toute la période, mais en Égypte, il y a toujours eu un très grand respect pour la famille du prophète, et donc, la dynastie célèbre la famille du prophète, dit descendre de la famille du prophète, et d'autre part, cette dynastie est festive, a un art absolument merveilleux, les plus belles pièces qui existent dans l'art arabe sont d'époque fatimide, construit des monuments magnifiques, et donc, il y a bon fonctionnement entre une Égypte sunnite et une dynastie qui est fatimide, plus d'ailleurs qu'ismaélienne, parce que peu à peu, il y a une spécificité égyptienne. Ils perdent d'abord l'Afrique du Nord, puis ils perdent la Syrie. Au contraire, ils vont s'installer au Yémen, et du Yémen, d'anciens fatimides vont aller s'installer en Inde. Et cela, autour de l'océan Indien, cela crée un réseau qui est toujours ce réseau à la fois religieux et commercial.
La dynastie fatimide égyptienne, tolérante et dynamique, connaît hélas quelques épisodes un peu plus sombres, et tout spécialement avec le calife Hakim.
Ce calife Al-Hakim est le premier calife fatimide né en Égypte, et il se plaisait davantage parmi les mauvais garçons de Fustat que parmi la cour du Caire. Et il a été très sensible aux sentiments anti-chrétiens et anti-juifs qu'il y avait parmi la foule des habitants musulmans de Fustat, qui n'avaient pas le droit de rester le soir dans la ville du Caire, et qui avaient l'impression que toutes les richesses allaient à la ville du Caire et qu'elles ne recevaient que les coups des soldats. Ils demandaient un état plus musulman, et au fond, une partie du califat d'Al-Hakim, ça a été de donner raison à cela et d'essayer d'exiger des chrétiens et des juifs, mais surtout des chrétiens, de se convertir à l'islam. Et il va complètement changer à la fin de sa vie. Il va rendre leurs biens aux chrétiens et aux juifs. Il va leur permettre, ceux qui étaient devenus musulmans, de devenir chrétiens et juifs. Et lui va abandonner tous les fastes et va se promener sur un âne en installant son cousin sur un magnifique cheval. Et il va disparaître un jour, sans doute tué par des sbires placés par sa sœur dans le désert, lors d'une soirée qu'il passait seul dans le désert.
Oui, mais cette disparition ne va pas laisser insensible une certaine partie des Ismaéliens qui vont interpréter de manière durable cette disparition. Thierry Bianchi.
Oui, alors, il y a des tenants de la divinité d'Al-Hakim. Lui-même ne s'est jamais proclamé Dieu, mais on l'a proclamé Dieu. Ce sont des Persans qui étaient installés au Caire qui l'ont proclamé Dieu. Ça n'a pas pris en Égypte, mais ça a pris assez curieusement en Syrie. Et là, il est apparu une nouvelle religion, les Druzes.
Les problèmes de dévolution, les problèmes dynastiques, vont porter un coup sûrement fatal, à plus ou moins long terme, à la dynastie fatimide. Mais en même temps, ils vont sécréter, sur le plan religieux, une scission, ou plutôt une évolution décisive avec Nizar, le calife Nizar.
À partir de la moitié du XIe siècle, la dynastie est dirigée par des vizirs militaires. Et le problème est le contrôle des imams qui sont dominés par ces vizirs militaires. Or, à la mort d'Al-Mustansir, en 1094-1095, le vizir militaire ne nomme pas le calife qu'on attendait, qui s'appelait Nizar, et il nomme à la place un jeune homme qui est de 18 ans, le frère très cadet. Or, ce calife Nizar, qui devait être calife, avait toute une cour de persans, dont Hassan Sabah, qui avait préparé une réforme de l'État et de la doctrine fatimide et qui comptait sur Nizar. Mais Nizar va être sans doute enfermé dans un mur, emmuré, et va disparaître. ce qu'il ne fallait pas faire, parce que chaque fois qu'on fait disparaître quelqu'un et qu'on ne peut pas montrer le cadavre, on risque d'en faire un dieu.
Hassan el-Sabbah, porteur d'idées réformatrices et légataire, si l'on peut dire, de Nizar, du calife Nizar, se replie dans les montagnes iraniennes au château d'Alamout, qui va devenir un sanctuaire, un foyer de réforme et ouvrir une période de l'ismaélisme à la fois grandiose et tragique. La dynastie fatimide du Caire finit par s'effondrer sous les coups de Saladin à la fin du XIIe siècle, et Saladin alors ramène l'Égypte dans le giron du sunnisme.
La voie est plus étroite qu'un cheveu et plus aiguë que la lame d'un sabre. Voici ce qu'il en est. L'âme humaine, au commencement, est dans l'état de pure potentialité, et elle ne possède que le pouvoir être. Lorsqu'elle passe à l'existence en acte, elle devient un ange de haut rang, ou au contraire, un démon maudit.
Un démon maudit. Si elle désire quelque chose du côté de l'ange ou du côté du démon.
Il n'y a plus de pouvoir politique ismaélien. La dynastie fatimide du Caire disparaît en cette fin de XIIe siècle. Mais à l'est, dans les montagnes iraniennes, à Alamout, les héritiers spirituels du calife Nizar préparent, autour de Hassan el-Sabbah, la grande réforme. Christian Jambet.
Hassan el-Sabbah a opéré, pour être dire, une scission à l'intérieur de l'ismaélisme fatimide, scission qui s'est concrétisée d'abord dans la reconnaissance de l'imam Nizar et de ses descendants. Ensuite, Hassan el-Sabbah a intensifié la rigueur morale de l'ismaélisme. On peut dire, si vous voulez, qu'il a rétabli très fortement un principe qui était déjà en réalité au cœur de l'ismaélisme, mais dont il a véritablement intensifié, valorisé toute l'importance. C'est le principe du primat de l'enseignement, ta'lim, sur toute autre source de connaissance, excepté, dans le cas bien sûr de l'imam, l'assistance divine immédiate. C'est ainsi que la communauté ismaélienne s'est constituée autour d'un principe pédagogique. On peut dire que c'est un vaste réseau d'enseignement hiérarchisé qui va depuis les représentants les plus élevés dans la hiérarchie de l'imam jusqu'aux disciples du grade le plus inférieur. Et les lumières ésotériques de la religion sont censées ainsi passer de grade en grade, n'est-ce pas, de limite en limite, comme on dit, de rang en rang, par une effusion continue qui prend d'ailleurs l'allure symbolique d'une effusion de lumière et qui communique ainsi du sommet jusqu'à la base l'ensemble des secrets qui sont contenus éternellement dans la personne de l'imam et qui sont finalement le secret même de la révélation prophétique de Mohammed. Cette hiérarchie constituée autour d'un principe d'enseignement suppose bien entendu le maintien de la loi de l'islam, mais cette loi prophétique est inférieure en dignité déjà, soit Hassan el-Sabbah, à la communication, pourrait-on dire, du savoir de l'imam par la hiérarchie ésotérique elle-même.
Alamout va devenir le symbole d'une expérience religieuse unique dans les annales de l'islam. Une période qui commence avec l'apparition d'un personnage nommé Hassan, qu'il ne faut pas confondre avec Hassan el-Sabbah. Une période qui commence en 1162, mais qui est vraiment Hassan, le résurrecteur, comme vous l'appelez, Christian Jambé.
Il est le représentant de l'imam, c'est-à-dire du descendant de Nizar. Mais de fait, ce représentant de l'imam va bientôt se révéler être non seulement l'imam lui-même, c'est-à-dire assumer la fonction de l'imam, mais assumer une fonction encore plus haute. Il va se présenter en effet pendant le mois de Ramadan de l'année 1164 à ses fidèles au château fort d'Alamout, et il va leur adresser un prône, leur faire traduire d'ailleurs un prône, dont le contenu est le suivant. Premier point, il se présente dans sa personne physique comme la manifestation, l'épiphanie de la vérité divine absolue. Cette personne, et ça c'est le deuxième point de son prône, de sa révélation, c'est que c'est la personne du résurrecteur. Il se présente lui-même en personne comme le résurrecteur de la résurrection, c'est-à-dire celui qui est appelé à clore toute une époque, c'est-à-dire tout un cycle de l'histoire humaine, cycle qui a commencé avec la prophétie de Mohammed. Et enfin, troisième et dernier point, mais qui est probablement celui qui a déclenché le plus de polémiques en islam, cette clôture du cycle de la prophétie, du sixième cycle de la prophétie, celui de Mohammed, par ce résurrecteur, clôt non seulement la révélation du sens littéral de la loi mohammadienne et de son sens caché, mais de toute législation prophétique. Au fond, c'est le moment où les législations prophétiques qui ont commencé avec Adam sont censées devenir inutiles au progrès spirituel de l'humanité, de sorte que le geste du résurrecteur consiste à abolir la loi islamique, la charia. Il annonce à ses fidèles que le temps de l'obédience ou de l'obéissance est passé, que le culte qui consistait à respecter, par exemple, les cinq prières rituelles, le devoir de l'aumône, le devoir du pèlerinage, bref, les devoirs canoniques, pourrait-on dire, de l'islam, ce temps est remplacé par un autre qui est celui d'une religion intérieure, spirituelle, entièrement fondée sur le sens caché des versets du Coran et des autres révélations antérieures, c'est-à-dire une obéissance qui ne passe plus par, comme pourrait-on dire, par la forme même de la légalité, par la forme juridique. Ça ne veut pas dire l'abolition de toute obéissance, mais c'est une obéissance à l'égal, on ne peut pas dire illégale ou supralégalitaire, c'est-à-dire le règne d'une religion purement intérieure. Alors voilà les trois points qui sont au cœur de cette réforme qui a eu lieu donc en 1164 et qui va durer à peu près une soixantaine d'années. Car pendant une soixantaine d'années, les territoires dominés par la convocation ismaélienne, aussi bien en Iran qu'en Syrie, vont vivre, si l'on peut dire, à l'état de résurrection. Le mot résurrection ne voulant pas dire, on l'a bien vu ici, résurrection corporelle, mais résurrection spirituelle. La notion est presque physique, il s'agit de se tenir droit. Enfin, les textes ismaéliens de l'époque le répètent, il s'agit de ne plus se tenir courbé, mais de se tenir droit, c'est-à-dire d'avoir rejeté le fardeau et les chaînes à la fois du péché et de la loi. Alors, au bout d'une soixantaine d'années, pour des raisons politiques et militaires, c'est-à-dire l'encerclement des zones ismaéliennes par les Turcs seldjoukides, qui sont la force militaire du califat sunnite de Bagdad, et on pourrait dire aussi l'encerclement idéologique de la communauté ismaélienne par toutes les autres forces constitutives de l'islam classique, y compris les chiites duodécimains de Bagdad. Le successeur de Hassan, successeur d'ailleurs pas immédiat, son petit-fils, décide le rétablissement de la charia, c'est-à-dire de la loi, la religion légalitaire de l'islam, de sorte que, si vous voulez, les apparences sont sauvées. À partir de là, la communauté ismaélienne Nizari va vivre selon un double régime, régime apparent du respect de la lettre, et du point de vue du sens caché, de la vie intérieure, on continue d'une certaine façon l'expérience de la résurrection spirituelle. Alors, il semblerait d'ailleurs qu'un certain nombre de missionnaires ismaéliens n'aient pas accepté facilement ce retour à la loi. On en a des traces dans des discussions, dans quelques textes. Mais au total, ce respect de la loi apparent va durer jusqu'à la chute d'Alamout, qui surviendra à la fin, enfin disons, à la fin du deuxième tiers du XIIIe siècle, peu avant la chute de Bagdad et du fait de l'invasion mongole.
Revenons un instant, si vous le voulez bien, Christian Jorbet, à la chute du califat du Caire, qui entraîne une dispersion. Une évolution doctrinale s'ensuit.
La branche au pouvoir en Égypte, la branche fatimide, va, à la suite de la déconfiture des imams califes du Caire, au fond, non pas supprimer l'imamat, mais pour partie d'entre elles, en tout cas, considérer que l'imam est occulté, Au fond, on assiste à une doctrine assez proche de celle de l'occultation de l'imamat chez les duodécimains, et va déléguer le pouvoir spirituel, le pouvoir d'enseignement, le pouvoir d'élaboration théorique à des daïs, ou plus précisément au daï absolu, au daï motlak, au missionnaire en chef, pourrait-on dire, qui va se charger de la communauté jusqu'à nos jours. Il y a donc un missionnaire en chef qui porte ainsi l'héritage jusqu'en Inde et au fond jusqu'à nos jours. Le problème qui n'est pas résolu, c'est celui de, pourrait-on dire, de la conciliation entre la vie d'une communauté terrestre et donc d'une communauté politique et l'esprit messianique, l'esprit de la fin des temps, l'esprit eschatologique de la profession de foi ismaélienne. Parce que le pouvoir fatimide s'est créé sur la base d'une proclamation de ce type, pas la proclamation du Mahdi. Or, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu tout le contraire. On a vu en tout cas des accommodements avec ou des transactions avec l'esprit du monde et la création d'un empire. Et de sorte que, à date répétée, et jusqu'à Nizar y compris, il y a eu des tentatives pour faire revivre l'esprit originaire, qui était un esprit qui visait à effectuer le retour du septième prophète. C'est ça qu'on a vu à l'origine de l'Égypte fatimide et qu'on retrouve à l'origine d'Alamout. L'idée qu'après les six prophètes porteurs d'une religion légalitaire devait venir un septième prophète porteur, lui, d'une religion purement spirituelle. Alors ça devait être l'ancêtre du premier imam fatimide, ça devait être ensuite le Mahdi fatimide lui-même, puis la date, pourrait-on dire, était reportée comme ça, d'imam en imam, et c'est ça qui réapparaît dans l'enseignement d'Hassan Sabbah et qui réapparaît évidemment dans la personne du résurrecteur Hassan. Alors les gens d'Alamout ont essayé de résoudre le problème de la manière la plus radicale qui soit, c'est-à-dire on crée une communauté sans autre lien que la personne du résurrecteur et son enseignement. Alors évidemment on maintient une communauté extrêmement hiérarchisée avec des combats incessants, c'est-à-dire des tâches politico-militaires constantes étant donné l'encerclement de cette communauté. On tâche de se débarrasser des troupes adverses en liquidant leur chef, ce qui a valu aux gens d'Alamout la réputation d'être des assassins. Mais enfin, le principe, c'était nous sommes minoritaires, nous sommes peu, donc nous faisons la guerre à la manière des minorités. Alors, c'est ça que, malheureusement, l'historiographie a souvent retenu d'eux. Mais c'est tout à fait inessentiel. L'essentiel, c'est qu'ils ont tâché, en effet, de créer un lien qui ne soit pas un lien politique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un lien social qui n'est pas un lien politique, mais qui est un lien purement mystique et spirituel, basé sur, au fond, deux choses. La première, c'est une transmission d'un enseignement de type nouveau, un enseignement spirituel de type nouveau, comme si les secrets de la loi prophétique pouvait désormais venir en plein jour, et d'autre part une intensification et une réévaluation de la morale et de la morale philosophique. Il faut savoir que Hassan, celui qui s'est présenté comme le résurrecteur, au fond doit sa conception du monde et sa conception de la religion à deux sources qui l'ont beaucoup abreuvé. D'une part, il est clair qu'il y a une influence soufie chez lui qui est considérable, et ensuite il y a un triomphe, pourrait-on dire, du néoplatonisme hellénique revu et corrigé par l'ismaélisme antérieur. Le résurrecteur s'est présenté lui-même comme la manifestation du verbe absolu. Au fond, si vous voulez, c'est ça qui fait d'ailleurs l'intérêt et presque la fascination que provoque cette expérience. Voilà, n'est-ce pas, quelqu'un, Hassan, qui reprend à son compte tout un tas de propos qui d'ordinaire sont dits à propos du Messie, sont prononcés au sujet du Messie. On a dans les textes ismaéliens de langue persane des expressions du type « l'imam de la résurrection est le maître du Shabbat », c'est l'homme du dernier jour. Ou bien il y a tout un tas de propositions christiques. Et il y a toute une christologie de l'imam qu'on peut découvrir ici. D'ailleurs, Jésus a servi de modèle très largement à l'imam Hassan, et que quelque chose s'est expérimenté dans l'islam qui est refusé par la lettre même du Coran. Alors on ne peut pas dire que ce soit l'incarnation du verbe divin dans l'homme, mais tout de même c'est la transparition de ce verbe et le fait qu'il ne fasse qu'un avec une personne humaine qui en est le miroir. Ensuite, alors, son rojat, c'est-à-dire, pourrait-on dire, son lieutenant, son représentant immédiat, était homologué à l'épiphanie ou à la manifestation de la première intelligence, et le prophète, se trouvant en troisième position, est présenté comme l'épiphanie de l'âme du monde.
La période d'Alamout se traduit par un succès certain et une diffusion inégalée, mais aussi elle comporte des apports proprement iraniens.
L'ismaélisme d'Alamout a ajouté donc à ces données de base un fort sentiment dualiste. Alors, c'est très intéressant de voir comment dans ces régions du nord de l'Iran, là où probablement il y avait des sentiments mazdéens ou manichéens encore présents, l'ismaélisme d'Alamout, tout en étant un strict monisme sur le plan philosophique et religieux, bien entendu, au contraire, ce sont des gens qui ont la passion de l'un, oppose très souvent deux mondes, ténèbres et lumières, la première ignorance, la première intelligence, les gens de la hiérarchie ou de l'ordre graduel, comme ils disent, et face à eux, les gens de l'opposition, c'est-à-dire les infidèles et les musulmans qui ne respectent que la loi littérale, c'est-à-dire les sunnites ou les autres chiites, ça fait beaucoup de monde, les gens de l'opposition. On oppose aussi l'élite au commun. Donc ce système d'opposition duel a dû séduire tout un tas de courants révoltés qui déjà s'était inscrit dans des tendances chiites extrémistes. Ensuite, ce qui a fait le succès et la diffusion de cet ismaélisme d'Alamout, c'est le fait d'avoir expérimenté jusqu'au bout quelque chose qui est une tentation qui n'est jamais réalisée en islam et qui est la tentation de donner une figure humaine à l'essence ou à la réalité essentielle divine elle-même.
L'ismaélisme contemporain, c'est aux yeux du plus grand nombre une minorité religieuse qui semble avoir choisi l'excellence. Dans quelle mesure ces ismaéliens sont-ils les héritiers spirituels d'Alamout, de la grande réforme d'Alamout ? Michel Boivin.
Bon, il faut d'abord préciser qu'entre Alamout et cette époque des Aga Khan se situe une époque relativement obscure. Les imams sont en Perse, ils sont plus ou moins victimes de persécutions et donc ils doivent vivre dans la clandestinité. Il semble qu'ils aient adopté le manteau du soufisme, donc ils se fassent passer pour des cheikhs soufis.
C'est-à-dire des mystiques.
Oui, tout à fait, et on possède quelques écrits de cette époque qui témoignent de l'interpénétration du soufisme et de l'ismaélisme avec une accentuation mystique. Et c'est seulement au début du 19e siècle que les imams réapparaissent, et en particulier donc avec les Aga Khan.
Alors, dispersion, avons-nous dit, à la chute d'Alamout, cela signifie que les ismaéliens sont obligés de fuir dans différentes directions. Certains iront vers les pays arabes comme le Yémen, mais d'autres vont gagner l'Inde.
Oui, le mouvement de conversion à l'ismaélisme remonte à cette période effectivement, mais en réalité ce sont des missionnaires, des pirs qui ont été envoyés par les imams vers l'Inde. On ne connaît pas exactement le contexte dans lequel cette propagande et ce prosélytisme s'est effectué, mais en tout cas à partir du 14e, 15e siècle, des conversions importantes se produisent donc d'hindous à l'ismaélisme.
Et on peut quand même constater que certains éléments de l'hindouisme se maintiennent dans l'ismaélisme.
Tout à fait. Et actuellement, la communauté ismaélienne la plus nombreuse est celle des Khodja, qui sont donc des ismaéliens indiens, enfin indo-pakistanais. Et d'après leur chant sacré, les Ginan, on connaît relativement bien quel était le processus de conversion. Et en réalité, les missionnaires ismaéliens utilisaient le Tawil, le concept de l'interprétation, pour établir diverses associations entre les prophètes ou les personnages sacrés, les saints de l'ismaélisme et certains autres saints de l'hindouisme. Et à cet égard, il y a un Ginan particulièrement important qui est le Dasavatar, c'est-à-dire la dixième manifestation. D'après ce poème, eh bien, Ali, l'imam chiite, est associé à la dixième manifestation du dieu hindou Vishnu.
Peut-on employer le terme de syncrétisme?
Alors, le terme de syncrétisme est assez connoté. Il est souvent senti péjorativement. Moi, personnellement, je pense que ce terme s'applique tout à fait, en tout cas, à cette période de l'ismaélisme, parce que là, nous parlons finalement de la fin de la période médiévale. Et depuis, en particulier avec les agakas au 19e, il y a eu une rénovation religieuse. Et il faut mentionner le nom de Sultan Mohammed Shah, donc, qui devient imam en 1885 et qui restera imam jusqu'en 1957 et qui va véritablement faire œuvre de rénovation religieuse, de réforme religieuse, aussi bien dans le domaine de l'islam du sous-continent indien que dans le domaine de l'ismaélisme.
Alors, ce personnage est assez familier en Occident. On le connaît, je crois, sous l'appellation, le titre d'Aga Khan III. C'était en fait le 48e imam, grand-père de l'actuel imam des Ismaéliens.
Tout à fait, c'est le 48e imam, donc, qui est devenu imam à l'âge de 8 ans. Et disons qu'il a connu dans sa vie un très grand nombre de bouleversements, bon, de la fin du 19e siècle au début du 20e. Et il est véritablement l'auteur de la modernisation des Ismaéliens, qui s'est appuyé donc avant tout sur une rénovation religieuse. C'est lui qui a désigné quels étaient les principes de base de cet islam rénové, en même temps de l'ismaélisme, à savoir le concept d'interprétation, le concept de prophétie et le concept qu'il appelait de monoréalisme, qui semble en vérité être d'origine soufie et correspondre au principe du wahdat et wujud, c'est-à-dire l'unité, le monisme existentiel, et qui prendra donc une très grande place dans l'ismaélisme contemporain. Pour ce qui est de l'interprétation, là, en réalité, l'Aga Khan donc remet au jour et redonne de l'importance à ce principe qui n'est autre que le ta'wil dans l'ismaélisme classique et qui donc permet d'interpréter en particulier le Coran, puisque dans la démarche de l'Aga Khan, il situe aussi l'importance des sources scripturaires, à commencer le Coran. Évidemment que le Coran est donc la source, la matrice même de l'islam. Donc ce Coran doit être cependant l'objet d'une interprétation, mais une interprétation qui évidemment s'effectue dans un cadre bien précis. Et cette interprétation lui permet en particulier de distinguer dans le Coran des préceptes, mais qui ne concernaient que l'époque du prophète, et d'autres préceptes qu'il appelle les vérités éternelles et qui pour lui sont typiques de l'islam. C'est en particulier la tolérance et la justice. Donc cette interprétation que chaque croyant doit faire tend finalement à faire ressortir ses valeurs éternelles, donc, et en particulier la tolérance qui finalement est la plus importante pour l'Aga Khan.
Et on devrait peut-être y ajouter la compassion.
Oui, aussi la compassion, et à cet égard, il remet en valeur un concept très ancien, bon, qui n'est pas proprement coranique, enfin la racine arabe se trouve dans le Coran, mais en fait c'est un qualificatif qui est attribué à Abraham, c'est le hilm, qui est une vertu très ancienne et qui en particulier signifie la compassion. Et pour ce qui est par ailleurs de la prophétie, il faut mentionner que l'Aga Khan élargit un peu le concept musulman, puisque les musulmans considéraient que le prophète de l'islam Mohammed était le sceau de la prophétie et que sa prophétie, sa révélation, parachevait celle des prophètes précédents. Bon, lui, il élargit un peu le concept, puisqu'il englobe aussi finalement les prophètes du monde indien, que ce soit Bouddha. Pour lui, Mohammed parachève toutes ces révélations, y compris les révélations indiennes.
L'Aga Khan III, Sultan Mohammed Shah, n'a pas été seulement un théologien, il a été également la cheville ouvrière de l'ismaélisme contemporain, mais surtout, il a été un précurseur dans le domaine social et politique. Michel Boivin.
Il a rencontré celui qu'on considère comme le fondateur du nationalisme musulman indien, c'est Syed Ahmad Khan à Aligarh. Donc il a essayé par la suite de faire prendre conscience aux musulmans que leur retard était imputable à eux-mêmes, qu'ils devaient se réveiller, qu'ils devaient se moderniser, plus particulièrement dans le domaine de l'éducation et dans le domaine du savoir. Et lui-même, à travers les Ismaéliens, a donné l'exemple, puisqu'il a créé de nombreuses écoles, et même il a été à l'origine de la création de la première université musulmane, celle d'Aligarh, donc après la Première Guerre mondiale.
Et tout ceci se passait sous domination britannique.
Bien entendu. Alors, vis-à-vis des Britanniques, l'Aga Khan faisait partie, en tout cas, des Indiens loyalistes. Bon, et d'ailleurs, on lui a beaucoup critiqué. Mais alors, à cet égard, il faut faire deux remarques. C'est que, premièrement, il faut se souvenir que les Ismaéliens étaient une petite minorité dans la population indienne et que, pour leur survie, je dirais qu'ils ont effectivement, ils se sont placés sous la protection des maîtres britanniques, mais beaucoup d'autres mouvements religieux ont fait la même chose. Et par ailleurs, il a été critique. Et ça, c'est un aspect qui est peu connu. Il faut savoir qu'il a publié plusieurs articles dans le Times dans les années 20, dans les années 30, où il critiquait avec beaucoup de virulence la politique britannique, en particulier au Moyen-Orient, vis-à-vis de pays comme l'Irak, l'Afghanistan, etc.
Ce que vous évoquez, Michel Boisvert, se situe dans une aire géographique bien délimitée, c'est-à-dire le sous-continent indien. Mais des Ismaéliens, il y en a d'autres. D'abord ceux qui précèdent cette implantation en Inde, et ensuite, dans un deuxième temps, ceux de ce que nous pouvons appeler la diaspora.
D'abord, je rappellerai que les Indiens sont largement majoritaire, sans doute 90% du total des Ismaéliens. Mais il est vrai qu'il existe d'autres foyers et des foyers plus anciens. Alors, en particulier, il y a des Ismaéliens arabes qui se trouvent en Syrie, mais aussi au Yémen. Il y a les Ismaéliens iraniens qui se trouvent en Iran, mais aussi en Afghanistan, et sans oublier le Tadjikistan. L'ex-république soviétique comprend en effet toute une région, bon, qu'on appelait sous les soviétiques le Gorno-Badakhshan, au Badakhshan, qui est peuplée par des Ismaéliens, et enfin se rattache une toute petite partie de la Chine, de la province de Xinjiang, où là aussi on trouve des Ismaéliens qui sont soit de langue iranienne ou aussi de langue turque, qui appartiennent à la population des Ouïghours et qui semblent avoir été convertis très récemment entre les deux guerres. Donc voilà quels sont les autres foyers ismaéliens en dehors des Ismaéliens du sous-continent indien.
Et puis il y a donc la diaspora.
Voilà, la diaspora. Alors pour ce qui est de la diaspora, elle est totalement d'origine indienne. Et dans un premier temps, les Ismaéliens du nord-ouest de l'Inde ont émigré vers l'Afrique orientale. Ils s'y sont maintenus jusqu'à l'époque des indépendances aux années 60. Et là, plusieurs de ces États africains ont développé des politiques nationalistes radicales. Bon, vous savez qu'en Ouganda en particulier, les Indiens ont été expulsés sans autre forme de procès. Donc, d'Afrique orientale, une partie des Ismaéliens ont gagné soit l'Europe, la Grande-Bretagne, mais aussi la France, soit l'Amérique du Nord. Ils sont particulièrement nombreux au Canada.
L'ismaélisme, un islam en adéquation avec le monde moderne. En guise de conclusion à cette série d'émissions, le point de vue d'un universitaire américain, spécialiste des religions et ismaélien lui-même, parlez-en téléphonique avec Boston, Azim Nanji.
Le plus grand problème de l'interprétation de l'islam dans la vie contemporaine est la question de conflit entre les modernités et les traditions. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de créer une dualité entre la vie contemporaine et la vie traditionnelle. Mais je crois que le point de vue de la théologie ismaélienne souligne un engagement total avec la modernité. C'est-à-dire, il faut créer un langage qui vous donne la possibilité d'islamisation de la modernité et ne pas une retraite ou bien une posture défensive sur la modernité. Le résultat en pratique dans la théologie ismaélienne est de créer un système d'éducation qui vous permettent la connaissance de toutes les sciences, toutes les vies contemporaines, et la méthodologie qu'on peut appliquer sur les problèmes de la vie quotidienne, c'est-à-dire la vie économique, la vie sociale, et aussi bien la question de méthodologie d'éducation. Et vous avez aussi, dans cet engagement avec la modernité, une éthique de compassion. Il faut avoir cette éthique parce que l'engagement de l'ismaélisme avec le monde est un engagement éthical qui présuppose un développement de la vie quotidienne dans tous les domaines. Et particulièrement dans cet engagement, il y a des questions de droits des femmes, parce que je crois que la théologie de l'ismaélisme n'exclut pas le rôle principal du femme. Et dans notre vie contemporaine, il faut souligner le rôle des femmes dans le développement de la société. Et je crois qu'on toujours construit une théologie qui est pluraliste, mais aussi bien inclusive des femmes et des hommes, de la culture traditionnelle et de la pensée moderne. Je crois qu'en général, la théologie de l'ismaélisme moderne et contemporaine souligne qu'il est possible de construire et de relier la pensée coranique avec la modernité.